Alors très bien, on attaque de front. Jean-Michel, je prends donc cette première partie qui concerne la façon de balayer et de mémoriser les canaux sur la réception satellite. Et je te passe le relais dans quelques instants pour que tu nous présentes la façon de faire la même chose, mais avec votre carte d'acquisition DVB-T, qui comme chacun sait en bon français veut dire télévision numérique terrestre. Voilà. Donc à tout de suite. Donc nous avons quatre parties dans cette présentation. Le balayage des canaux, puisque assez curieusement, lorsque vous achetez un magnétoscope, un récepteur, un décodeur satellite, etc., toutes ces fonctionnalités sont extrêmement simplifiées pour la ménagère de moins de 50 ans qui est censée brancher son appareil et regarder immédiatement ce qui est diffusé sur l'antenne. Dans le cas de la fabrication d'un magnétoscope numérique à partir d'éléments courants du monde PC informatique, les choses sont légèrement plus compliquées. Tout doit être développé à façon. On utilise donc une carte de réception sur port PCI, typiquement. Et le logiciel doit être capable de réussir le scan de fréquence, le balayage de fréquence, et la mémorisation, la détection, la reconnaissance des canaux. C'est ce que nous allons voir ici, parce que ça n'est pas automatiquement réussi. Le deuxième point nous insistera sur l'installation, la configuration de la télécommande infrarouge. Là aussi, c'est une fonctionnalité qui existe de base dans n'importe quel appareil, un produit brun du grand public. Lorsque nous utilisons notre propre PC avec nos propres logiciels, ce qui est le but de la manip ici, il y a une petite attention particulière à porter à la configuration de la télécommande. La première et principale raison en est, il y a tellement de télécommandes sur le marché et il y a plusieurs façons de les brancher, de brancher un récepteur infrarouge à un PC, pour certains modèles, les fichiers de configuration et la façon de faire existent par défaut. Pour d'autres modèles, il faut mettre les mains dans le cambouis, et c'est ce que nous allons faire cet après-midi. Le troisième point va nous permettre de comprendre comment nous pouvons activer la mise en sommeil automatique et le réveil de la machine. Là encore, certains esquissent un sourire en disant mais ce sont des fonctionnalités standards de n'importe quel produit brun lié au téléviseur. Il est évident qu'il se met en veille, il n'est pas actif 24 heures sur 24 et il se réveille lorsque un programme doit être enregistré. Un PC est un petit peu plus capricieux de ce point de vue-là, mais nous allons le mettre entre les mains de notre expert Jean-Michel et le PC ne résistera pas, il se mettra en veille et se rallumera bien entendu. Et le quatrième point, un tour d'horizon pour vous faire découvrir des fonctionnalités avancées de ce logiciel. Ce sera moins dans le détail, ça nous permettra de survoler un peu ce qu'il est possible de faire et nous aurons bouclé la boucle et certainement, nous l'espérons, nous vous aurons donné envie de vous-même tester et de l'installer à votre tour et pourquoi pas de nous rejoindre à l'occasion d'une prochaine conférence sur un thème un peu plus avancé. Nous attaquons d'emblée avec la réception DVB-T. Il faut pour cela comprendre une chose. Il ne sert à rien d'essayer de configurer la réception DVB dans le logiciel Mist TV lui-même si un certain nombre de prérequis ne sont pas acquis. Les prérequis en question, il s'agit principalement que votre matériel de réception télévision numérique, donc en d'autres termes votre carte de réception DVB S, puisque là, dans cette première partie que je prends en charge, nous parlons de la réception par satellite, il faut que cette carte de réception, ce matériel, soit correctement reconnu par votre système d'exploitation. Toute la démonstration qui est présentée cet après-midi repose et utilise comme système d'exploitation GNU Linux. Cela va sans dire, mais pour certains qui regarderont cette conférence a posteriori et qui sont peut-être moins au fait des logiciels libres que la Doct Assistance qui nous écoute à l'heure actuelle, toute notre démonstration utilise ce logiciel d'exploitation libre qui est GNU Linux. Et notre première préoccupation va être de vérifier, à l'aide de commandes très simples, si la carte d'acquisition DVB qui a été installée par vous-même dans votre PC est correctement reconnue. Alors, La première étape, probablement, est de vous demander si, lorsque vous achetez la carte, vous avez la possibilité de choisir le bon modèle. Car nous savons très bien que certains modèles sont vendus par des fabricants qui n'ont en tête, des constructeurs qui n'ont en tête que le monde Windows, qui mettent à disposition de Windows des pilotes propriétaires et qui ne permettront pas à la carte de fonctionner dans un environnement de logiciel libre tel que GNU Linux. Ces cartes, malheureusement, sont très bien pour les propriétaires de machines Windows, mais ne nous conviennent pas. Donc on prendra soin à regarder sur le site internet linuxtv.org, que vous voyez à présent à l'écran, et qui recense la totalité des équipements couramment utilisés pour cette application de magnétoscope numérique, et qui indique, par les retours d'expérience des utilisateurs et des acheteurs, souvent des acheteurs heureux et parfois des acheteurs malheureux, qui indique donc quelles sont les cartes qu'il faut de préférence choisir parce qu'elles sont bien prises en compte par le logiciel, et celles qu'il faut éviter parce qu'elles sont mal prises en compte ou parce que tout simplement le logiciel n'existe pas pour elles dans le monde GNU Linux. Fermons notre navigateur. Il est ensuite nécessaire, à partir du moment où vous avez fait cet effort d'acheter à la boutique la carte recommandée, il est maintenant nécessaire de vérifier, vous avez démarré votre ordinateur, Miss TV est installée, de vérifier dans les messages de démarrage du noyau Linux si le noyau nous dit bien, donc par la commande des messages, si le noyau nous confirme bien que la carte a été reconnue et que le bon pilote logiciel a été chargé pour elle. À l'écran, vous voyez en forme de clin d'œil une petite copie d'écran faite sur mon propre téléviseur quand j'avais rencontré des difficultés à faire fonctionner l'une de mes cartes. Impossible de trouver aucun canal. Et c'est très clair, tant que le bon pilote n'a pas été chargé par le noyau, les autres applications ne pourront pas recevoir les programmes télévisés par l'intermédiaire de cette carte qui ne fonctionne pas, faute du bon logiciel. On va donc vérifier dans la liste des messages inscrits par le noyau au démarrage que l'on trouve les mentions typiquement qui s'affichent sous la forme de enregistrement de l'extension Budget AV. Si on a la chance d'avoir une carte à base de chipset Philips SAA 7146. C'est un exemple. Le message peut différer légèrement si vous avez une carte d'un autre fabricant. Typiquement, on va trouver des messages tels que DVB, deux points, enregistrement d'un nouvel adaptateur. Alors, tous ces messages sont en anglais, mais je les traduis rapidement, suivi par le nom du modèle de la carte. Et ça, ce sont des très bons indicateurs. Vous êtes sur la bonne piste. Un autre message, DVB, enregistrement de l'adaptateur 0 et du front-end 0, avec le nom du front-end. Alors, une petite explication sur la nature de l'adaptateur et du front-end. Dans ces cartes d'acquisition numérique, de télévision numérique, donc DVB-S dans le cas qui nous concerne, mais DVB-T dans ce dont Jean-Michel va parler dans un instant, il y a deux parties dans la carte. La première qui fait l'interface avec le reste de l'ordinateur, typiquement lorsque c'est une carte PCI, eh bien il y a un pont PCI entre la carte et le bus PCI. C'est ce que l'on appelle l'adaptateur. Là, en l'occurrence, l'adaptateur est noté adaptateur 0, puisque dans le monde GNU Linux, par tradition, par convention, le premier élément est toujours noté 0. Et ensuite, deuxième information, front-end. Qu'est-ce que c'est que le front-end? C'est tout simplement le récepteur, le tuner. Le tuner en anglais, le récepteur. Et Jean-Michel, dans un instant, donnera l'exemple de sa carte DVB, celle dont il préconise l'achat à tout un chacun, qui porte deux récepteur radio. Et donc, il est possible de capter simultanément deux stations différentes situées sur deux multiplexes numériques différents, tout simplement parce que la carte se comporte un peu comme s'il y en avait deux pour le prix d'une. Et par conséquent, lorsque l'on trouve dans la liste des messages donnés par le noyau au démarrage de la machine et accessible par la commande des messages, lorsque l'on trouve l'indication front-end 0, front-end 1, etc., ce sont de très bons signes que la carte est reconnue. Et le dernier test, puisque cette petite mise en garde était en trois parties, il faut que vous retrouviez dans l'architecture des fichiers un équipement, un device, dans le monde des habitués, qui se trouve dans sous l'arborescence slash dev slash dvb. Et à cet endroit-là, doit être créé justement l'équipement, le device adapteur 0. Et à l'intérieur de adapteur 0, vous allez retrouver front-end 0. Et éventuellement, si votre carte porte un second récepteur, un second tuner, vous allez retrouver également front-end 1. Jean-Michel, je parle sous ton contrôle, mais je pense qu'à partir de ce niveau-là, si on a confirmé ces trois éléments en vérifiant que tous ces messages s'affichent et que les équipements sont créés dans l'arborescence de fichiers, on peut dire que la carte est correctement reconnue, que le pilote qui a été chargé par le kernel est le bon et que la suite des événements n'est qu'une question de configuration. On abandonne les problèmes de bas niveau, les problèmes de système d'exploitation, les problèmes de reconnaissance de matériel, les problèmes de pilote, etc. On est dans la catégorie des gens qui vont réussir. Bon. Slide suivant. Le slide suivant vous présente trois photos d'écran pour vous dire à quel endroit les réglages se font et d'abord qu'est-ce qu'il faut régler. Nous sommes à présent dans le logiciel Miss TV lui-même et particulièrement dans la partie du logiciel Miss TV qui s'appelle Miss TV Setup, donc configuration en bon français. Je crois que parmi les annonces fracassantes que Jean-Michel souhaite nous faire en fin de conférence sur les fonctionnalités avancées, il est notamment prévu que dans les futures versions de Miss TV, alors je ne suis pas tout à fait sûr que c'est dans la 0.24, au passage on utilise la 0.23 à l'heure actuelle, mais dans les futures versions on aura une convergence entre les différentes briques de Miss TV et on ne parlera plus d'un côté de Miss TV Setup et de l'autre côté de Miss TV Front-End, mais tout sera réuni dans le même. Pour le moment, il y a donc un logiciel particulier qui s'appelle Miss TV Setup et qu'il nous est nécessaire de lancer pour configurer. Configurer quoi ? Configurer d'abord la carte de réception DVB. Il faut dire au logiciel de KMIS TV, à ce logiciel qui va se comporter comme un magnétoscope numérique, il faut lui dire avec quel matériel on va recevoir les flux numériques de télévision, dans le cas qui nous intéresse, donc de télévision par satellite. Seconde étape, il faut lui dire avec quels moyens on va recevoir les indications de programme électronique, de guide de programme électronique. Et troisième étape, il faut lui dire de scanner, de balayer les canaux et de les mémoriser pour avoir accès direct aux chaînes. Ce premier slide donc symbolise d'une part, on va faire un petit zoom sur l'écran d'accueil. Il s'agit donc à l'intérieur de Miss TV, il s'agit donc du choix numéro 2, carte d'acquisition. Donc nous rentrons dans carte d'acquisition. Et nous allons tout de suite regarder quel est le premier écran. Nous avons dit tout à l'heure que existait dans l'arborescence de fichiers de notre système d'exploitation un équipement qui s'appelle adapteur 0 dans l'arborescence slash dev slash dvb. Et cette information nous est redonnée immédiatement ici. On le voit bien, cette fois-ci bien entendu, non plus grâce à la commande en ligne, mais sous la forme dans le cadre de l'interface graphique de Miss TV. Cette information nous est donnée puisque on a la mention numéro de périphérique DVB. De quel périphérique DVB s'agit-il? Quel est le matériel que l'on demande à Miss TV d'exploiter? Il s'agit de slash dev slash DVB slash adapteur 0 slash front end 0. La carte est correctement identifiée. Et elle est d'autant plus correctement identifiée que la ligne suivante sur cet écran, identifiant du frontal, donc quel est le front end en bon anglais, et donc quel est le récepteur radio que l'on utilise. En l'occurrence, pour cette carte-là, il s'agit d'un récepteur du fondeur ST, donc le STV0299, qui nous est indiqué comme étant un récepteur DVB-S pour le satellite. Ce sont vraiment des indications essentielles à confirmer, à vérifier. Elles nous garantissent que la carte fonctionne bien, qu'elle est bien reconnue par le logiciel Miss TV et que nous n'aurons pas de problème ensuite, de bas niveau en tout cas. Continuons sur l'écran suivant. Donc ici, bien entendu, vous l'avez compris, puisque ce sont des menus déroulants à l'écran, le but est bien de sélectionner la bonne carte pour dire au logiciel laquelle utiliser. Le troisième écran sur lequel je souhaite m'arrêter longtemps, ou plus exactement, insister beaucoup sur son importance. Il est très courant, parce que telle est l'ergonomie à ce stade de Mist TV et particulièrement de sa partie configuration, donc le Mist TV Setup. Il est très courant de passer à côté de cet écran qui est pourtant essentiel. Vous savez certainement qu'en réception satellite, les choses sont légèrement plus compliquées et les installations peuvent être particulièrement riches, hein, puisque le satellite, il en existe de nombreux au-dessus de nos têtes, en position géostationnaire, dédiés à la réception, au broadcast de signaux, à la transmission, à la diffusion de signaux audiovisuels. La réception satellite peut être donc particulièrement compliquée avec des montages à plusieurs paraboles ou bien encore des paraboles qui sont motorisées ou encore des paraboles à double tête de réception, etc. Et il est nécessaire à cet endroit-là, dans cet écran-là, de dire à Mist TV quel est le type de parabole, quel est le type de tête de réception, quelle est la nature de l'installation qui sépare la carte d'acquisition numérique, la carte d'acquisition DVB-S, de la parabole montée sur le toit. Comment ça fonctionne? Et si l'on oublie cette étape, on va configurer tout très bien partout ailleurs. On n'aura pas dit à notre logiciel comment causer à la parabole satellite de réception installée à l'extérieur. Il sera bien incapable de l'utiliser et donc il ne recevra jamais aucun canal. Et nous sommes nombreux à nous être dans nos première passe d'armes avec Mist TV à nous être heurté à cette difficulté. L'écran de déclaration du type de tête de réception à utiliser n'est pas très explicite. Il faut vraiment penser à le faire à l'installation, sinon rien d'autre ne marchera derrière. Alors ne rentrons pas trop dans les détails des technologies de parabole. Disons simplement que en ce qui concerne le public européen pour des réceptions sur des satellites extrêmement standards de style Eutelsat ou Astra, il est nécessaire de retenir le type de parabole dite universelle. Universelle, ça veut dire des paraboles qui sont capables de modifier leur polarité de réception et également de modifier la fréquence sur laquelle elles reçoivent. Comme on le disait tout à l'heure, contrairement au monde de la télévision terrestre, que ce soit analogique ou numérique, la réception par satellite est un monde complexe, et notamment, ça commence tout simplement avec les fréquences. Les fréquences, grosso modo, s'étagent entre 10 et 12 GHz, donc avec un spectre très large, trop large pour être transmis en l'état par le câble coaxial qui va de l'antenne située sur le toit au récepteur numérique situé en l'occurrence dans votre PC, votre carte d'acquisition PCI, et il est nécessaire d'avoir recours, comme d'ailleurs avec n'importe quel récepteur décodeur satellite, il est nécessaire d'avoir recours à des trucs, notamment en tronçonnant la fréquence récupérée en deux et en acheminant, en transposant la fréquence de la bande de fréquence la plus haute et de façon à la transmettre jusqu'à la carte de réception. Tous ces réglages un peu compliqués sont, Dieu merci, complètement normalisés, pris en charge par Mist TV sans difficulté. Pour autant qu'on sélectionne le type de tête, donc tête universelle, qui sera capable, selon l'alimentation électrique en 13 volts ou en 18 volts, de dire à la tête sur l'antenne parabolique de se commuter en polarisation horizontale ou verticale, et selon que la carte DVB-S applique une fréquence de 22 kHz ou non, la tête comprendra qu'il faut qu'elle envoie à la carte DVB-S telle portion ou telle autre de la bande de fréquence totale reçue du satellite. Allons-y pour l'écran suivant. Notre slide suivant passe à la seconde étape dont je parlais tout à l'heure. Après la déclaration du type de carte existant dans la machine et que Mist TV va utiliser, après la déclaration du type de tête de réception sur la parabole, nous déclarons maintenant quelle est la méthode pour recevoir le guide des programmes électroniques. Alors le guide des programmes électroniques, c'est quelque chose qui a fait son apparition, on va dire, depuis le satellite, depuis la diffusion par câble, depuis que les opérateurs sont capables d'installer chez les abonnés des équipements, des décodeurs dédiés, et dont on essaye d'enrichir un peu les fonctionnalités en leur permettant d'afficher en incrustation vidéo sur l'écran. Bon, quel est le nom du programme qu'on est en train de voir, et probablement, si les choses sont bien mises à jour, quels sont les programmes à venir dans les quelques jours qui viennent sur l'ensemble des chaînes diffusées. C'est un sujet à la fois prometteur et épineux. épineux parce qu'il est évident que les programmes, recevoir les programmes sous forme électronique, en même temps que le signal vidéo et audio d'une chaîne de télévision, ne pose pas trop de problèmes techniques. Par contre, pose un redoutable problème d'agrégation des données. Les données elles-mêmes sont connues de qui ? Des chaînes de télévision. Et le canal technique qui permet de recevoir ces données, qui est-ce ? Ben, c'est l'opérateur satellite. Donc il faut que les chaînes de télévision alimentent, entre guillemets, le canal satellite des données qu'elles possèdent en stock, mais il faut le faire. Il y en a qui le font, il y en a qui ne le font pas. La norme DVB-S prévoit de transmettre dans un des flux, dans le multiplex numérique, de transmettre ces informations qui permettront ultérieurement au récepteur satellite, et dans notre cas donc à notre boîte, à notre PC informatique transformé en récepteur satellite et en magnétoscope, de recevoir donc les informations. Quel est le nom de la chaîne, quel est le nom du programme, quel est le programme à venir, etc. Et c'est ce que nous appelons la transmission sur antenne. C'est celle que nous allons sélectionner ici. J'ouvre tout de suite l'écran correspondant pour en donner un aperçu en grand écran. Guide transmis seulement par l'EIT. C'est la solution la plus simple. Et tout à l'heure, Jean-Michel nous parlera de la solution alternative. C'est aussi la solution la moins efficace. Si toutes les chaînes jouaient le jeu, on aurait beaucoup d'informations utiles par ce moyen. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et Jean-Michel nous fera la démonstration en ce qui concerne la transmission sur DVB-T, donc la TNT, qu'un bien meilleur moyen pour avoir des informations fiables est de demander à Miss TV de récupérer le guide de programme électronique, non pas par le canal numérique transmis en même temps que la vidéo et l'audio, mais tout simplement par l'Internet, par différents moyens, en se connectant, en demandant à la boîte de se connecter à des sites Internet dédiés pour récupérer les programmes en ligne. Abandonnons donc cette étape qui était nécessaire et intéressons-nous à la troisième étape. J'ai abandonné, excusez-moi, le slideshow, j'y reviens tout de suite. La troisième étape donc consiste maintenant à balayer les canaux. Allons-y, on est là pour ça. Je passe au slide suivant. Elle s'intitule sur l'écran Miss TV correspondant. On a donc c'est le choix numéro 4, c'est entrée vidéo. Donc il faut bien comprendre quelle est la logique de Miss TV. On a commencé par déclarer quel était le matériel et maintenant on va lui dire quand tu veux regarder les chaînes que nous allons maintenant balayer et que nous allons maintenant mémoriser, il faut que tu utilises ce matériel. Ça peut paraître assez compliqué comme étape successive. Lorsqu'on a effectivement une carte de réception DVB, c'est vrai que tout aurait pu être simplifié. Mais lorsqu'on en a plusieurs, il est tout à fait logique qu'il y ait une première étape qui permette de déclarer à la machine « je veux utiliser cette carte, cette carte, cette carte » et une deuxième étape qui permette de déclarer à la machine, ou plutôt au logiciel Miss TV, « pour ces canaux-là, je veux utiliser cette carte, pour ces canaux-là, je veux utiliser telle autre ». Et nous sommes dans cette étape-là où il s'agit de balayer les canaux et de scanner. En grand écran, cette photo d'écran prise dans l'espace configuration de Miss TV, dans Miss TV Setup, où nous allons encore une fois vérifier que la source vidéo dont nous sommes en train de demander la configuration, c'est bien /dev/dvb/adaptateur0/frontend0 comme nous le voyons apparaître en haut de l'écran. Et sans plus attendre, appuyons sur le bouton « Rechercher les chaînes ». Et c'est là où quelques-uns peuvent rencontrer des difficultés. Écran suivant. Alors, que nous disent nos amis sur le chat ? Oui, avec le PDF. Oui, absolument. La présentation que nous sommes en train de dérouler ici pour les gens présents à la cantine est exactement la même que celle que vous avez à votre disposition sur le site internet lacantine2010.mistvfr.com. Non, pardonnez-moi, .mistv.fr. Et sinon, il faut ouvrir quel fichier ? Il faut ouvrir bien entendu la version V1.0. Et selon que vous avez une préférence pour les documents Open, vous pouvez utiliser ODP ou sinon utiliser le PDF si vous n'avez pas les bonnes formes de caractère. Revenons à notre écran de configuration. Le plus important, quand on parle de DVB, pour le satellite, c'est de comprendre que les choses sont beaucoup moins automatisées que dans le monde de la télévision numérique terrestre traditionnelle. Il y a des mécanismes qui permettent, lorsqu'on essaye d'écouter un petit peu les fréquences radio qui tombent du ciel, de retrouver quelles sont les fréquences des transpondeurs, donc des différents streams binaires qui sont transmis par le satellite. Ça fonctionne plus ou moins bien. Et donc, en l'occurrence, nous allons prendre pas à pas une méthode éprouvée qui essaye de passer au milieu des nids de poules. Donc nous allons d'abord, puisqu'il y a plusieurs méthodes qui sont possibles pour réaliser le balayage de fréquences, nous allons d'abord sélectionner sur la ligne type de balayage, nous allons sélectionner le balayage complet, entre parenthèses, ajusté. Notre ami Gilles, qui s'investit énormément dans la traduction des écrans et qu'il faut remercier avec nos 3-4 autres collègues de la communauté francophone des utilisateurs de Miss TV pour le travail qu'ils ont réalisé pour la traduction des écrans, m'a transmis un slide mis à jour avec la bonne francisation, la bonne traduction. Pardon Gilles, ça c'est une petite dédicace que je t'envoie, de ne pas, pour ce slide-là en particulier, de ne pas avoir repris ta copie d'écran, mais pour moi c'était important d'insister sur la fréquence et notamment de rappeler qu'il fallait la mettre en kilohertz. C'est pour ça que j'ai gardé cet écran qui malheureusement est impartiellement traduit. Mais soyez bien certains que lorsque vous utilisez la dernière version de Miss TV, grâce au travail de notre valeureuse équipe de traducteurs, l'écran apparaît entièrement traduit. Donc ça n'est qu'un artefact lié à un choix personnel pour la présentation aujourd'hui. Donc, balayage complet ajusté, probablement le titre est extrêmement trompeur, il l'est également en anglais, tout simplement parce que ça c'est tout sauf un balayage complet. Une personne qui allume son téléviseur, son magnétoscope et qui essaie de chercher les canaux et de mémoriser les fréquences et les chaînes, lorsque vous lui dites qu'on fait un balayage complet, il comprend qu'on commence à la première fréquence, on termine à la dernière et on a tout trouvé. Alors ça n'est pas du tout le cas ici. On va faire un balayage complet d'un transpondeur et d'un sol. Nuance appréciable, quand on sait qu'un même satellite, ou tout au moins une même position satellitaire, parce que souvent plusieurs satellites sont groupés sur la même position en orbite géostationnaire, donc peut comporter évidemment des dizaines de transpondeurs. Donc nous allons ici balayer un transpondeur. Et quels sont les paramètres techniques pour lancer le balayage d'un transpondeur? Probablement le plus important d'entre eux, c'est la fréquence sur laquelle se trouve ce transpondeur. Ça n'est pas le seul élément technique, mais c'est le plus important parce que c'est celui qui évidemment change toujours. Passons en revue rapidement sur ce slide, parce que si nous ne le faisons pas maintenant, nous ne le ferons jamais, tellement nous sommes pressés d'obtenir nos fréquences à l'écran. Sur les 3-4 autres paramètres techniques, la polarisation horizontale indique donc dans quel plan la fréquence radioélectrique est émise, et il convient de configurer l'antenne de réception, en l'occurrence la tête LNB, dans le même plan, donc de choisir polarisation horizontale ou verticale, et selon que l'on cherche à balayer un transpondeur ou un autre, la polarisation peut être différente. Le taux de symbole, c'est tout simplement la vitesse, le débit de symbole. C'est l'occasion de vraiment féliciter les traducteurs de notre équipe de la communauté francophone de Miss TV d'avoir choisi la bonne appellation. Les anglo-saxons aiment bien parler de symbol rate, c'est-à-dire le débit, le taux de symbole par seconde. Et pour nous, un petit coup de chapeau à notre ingénieur Émile Baudot, il y a plus de 100 ans maintenant, qui a été l'auteur du premier codage pour la transmission télégraphique et dont nous retenons encore le nom aujourd'hui, qui a donné son nom donc à cette unité de mesure qui s'appelle le BO et qui dit tout simplement c'est le nombre par seconde de changement d'état dans le signal qui nous est transmis. À ne pas confondre avec le nombre par seconde de bits transmis, tout simplement parce que chaque état peut, et c'est toujours le cas dans les modes de modulation modernes, chaque état peut transmettre plusieurs bits. Donc évidemment, si un état est capable de transmettre 2 bits à la fois, on aura un débit en nombre de bits par seconde double du débit en nombre de baud. Fermons la parenthèse, qui intéressera peut-être tel ou tel regardant notre conférence, et disons que le débit couramment accepté est donc de 27,5 MHz, débit en termes de symbole, et que ce paramètre-là n'a pas besoin d'être beaucoup changé. troisième paramètre à connaître, si l'on ne veut pas le laisser sur automatique, c'est le code de correction d'erreur, Forward Error Correction Code, qui peut prendre des valeurs un petit peu ésotériques, 1/2, 3/4, 7/8, etc. De quoi s'agit-il ? Tout simplement, il convient de comprendre que une transmission numérique peut être sujette à des interférences, à des déformations, à des altérations, et que pour éviter d'avoir tout simplement des erreurs de réception qui se traduisent dans la télévision numérique par des artefacts, par des défauts à l'écran, dans le son et sur l'image, des pixels qui manquent, des pixels qui bloquent, on parle de pixelisation, on rajoute des informations supplémentaires qui permettent de corriger les erreurs. Et il est évident que plus on ajoute d'informations supplémentaires, plus on protège la transmission contre les erreurs. Typiquement, un code de correction d'erreur de 1/2, c'est-à-dire pour un débit utile de 1 qui rajoute 50% de code de correction d'erreur, va beaucoup protéger la transmission. Si l'on a simplement un code de correction d'erreur de 3/4, on va rajouter une quantité redondante pour permettre la correction des erreurs bien plus faible. Et évidemment, on choisit ce type de réglage quand on a une transmission d'excellente qualité. Et puis, on voit encore des opérateurs qui désormais changent leurs paramètres techniques pour passer à du 7/8, qui protège encore moins, tout simplement parce qu'il est évident que toute la place dans la transmission numérique sur le transpondeur qui est libérée par le code de correction d'erreur peut être utilisée pour transmettre de l'information utile, c'est-à-dire de l'image et du son. Alors, évidemment, parfois, les impératifs techniques se heurtent aux impératifs commerciaux, et si nous avons le réflexe de penser que si on met moins de correction d'erreur, c'est pour avoir plus de bitrate utile, de débit utile pour l'image et pour le son, et donc avoir de plus belles images et un son de meilleure qualité, la contrainte commerciale, c'est bien évidemment que ça permet surtout de mettre plus de chaînes par transpondeur. Et au final, on n'a pas forcément une meilleure qualité. Allons-y, vous avez compris, on lance le scan. Et que va-t-il se passer ? L'écran suivant. Eh bien, l'écran suivant, nous trouvons un certain nombre de chaînes de télévision. Où trouver la fréquence du transpondeur ? Dans ce slide-là, nous vous indiquons que une toute première source d'information, c'est tout simplement de chercher pour chaque satellite quelle est la fréquence du transpondeur que l'on propose de scanner en tout premier comme transpondeur initial. Et cette fréquence se trouve dans le fichier, un fichier portant le nom du satellite auquel on s'intéresse, en l'occurrence installé par les utilitaires DVB Utils, DVB Apps selon la distribution que vous utilisez. Et dans ce fichier, on peut trouver la fréquence du transpondeur. En l'occurrence, pour Hotbird, sur lequel cet essai a été fait, la fréquence est donc de 12,53 GHz. Et ce fichier nous précise également que la polarisation pour ce transpondeur est en horizontale, que le baud rate, le nombre de baud par seconde est de 27 millions, etc. etc. On peut également choisir de rentrer dans l'écran précédent, qui se trouve encore en petite vignette à l'écran, ici sur ce transparent-là. On peut également choisir de rentrer la fréquence en découvrant finalement quels sont les transpondeurs qui réellement nous intéressent, au sens de quels sont les transpondeurs qui transmettent les canaux de télévision que l'on souhaite regarder. Bon, si l'on veut les canaux de télévision francophones, peut-être est-ce qu'on n'a pas besoin de balayer les transpondeurs qui transmettent les canaux de télévision des Philippines, par exemple. Et pour cela, très souvent, on propose de regarder sur tel ou tel site internet de passionnés de satellites, de réception satellite, qui font la liste des différents transpondeurs pour les différents satellites et qui permettent d'avoir des tri sélectifs et donc de chercher quels sont uniquement les transpondeurs et leurs fréquences pour les chaînes qui nous intéressent. Ce transparent signale, par exemple, ce site kingofsat.net. Il y a un dernier point à savoir, à retenir avant de lancer le balayage, c'est bien celui de la façon de rentrer la fréquence du transpondeur. Elle doit être exclusivement inscrite en kilohertz. Une fréquence de transpondeur peut, selon le média sur lequel on la trouve, se retrouver transcrite en beaucoup beaucoup d'unités, du gigahertz au hertz. Nous, c'est des kilohertz qui nous intéressent. Est-ce que Jean-Michel, est-ce qu'il y a des commentaires intéressants pour nous sur le chat auxquels il faudrait réagir? C'est l'initialisation du balayage, nous dit Gilles, que l'on configure, mais il faut le balayage de tous les transpondeurs. Absolument, absolument. On y arrive. La conséquence de ce balayage, c'est que nous allons avoir Miss TV qui va nous enregistrer, qui va nous trouver, qui va nous enregistrer les canaux présents exclusivement sur le transpondeur dont on lui a donné la fréquence. Et c'est tout. Et c'est exactement ce que nous dit Gilles. C'est également ce que nous apprend, si on prend la peine de le lire, et sur ce transparent, nous vous en donnons l'URL, la documentation officielle de Miss TV. Qui lit encore le manuel de nos jours? Eh bien évidemment, notre valeureuse équipe de traducteurs, qui, pour traduire, a bien besoin de lire les manuels, et c'est également la raison pour laquelle, souvent, l'ensemble des traducteurs recouvre très très bien l'ensemble des experts. Donc, sur mistv.org/wiki/dvb-s, on trouve cette mention selon laquelle il est nécessaire de lancer le scan d'abord sur le transpondeur initial, et ensuite de faire la manipulation que nous vous indiquons à l'instant. Allons-y, nous avancions d'un slide. De quoi s'agit-il? On va revenir sur l'écran précédent qui nous a permis de lancer le balayage ajusté, entre parenthèses, complet, ou plus exactement, le balayage complet, entre parenthèses, ajusté, dont on a dit que c'était une appellation fortement trompeuse. Et maintenant, nous allons choisir un autre mode de balayage, balayage d'un seul transpondeur existant. Très naturellement, va se retrouver à l'écran, un petit peu plus bas, vous le voyez, la fréquence du transpondeur que l'on a réussi à détecter et dont on a réussi à réaliser le premier balayage. Ah ah, Gilles, je vois que tu m'as fait changer ce slide-là, mais il me manque donc une petite coche. Il me manque une petite coche. C'est ici, dans le choix recherche des nouveaux transports, il est nécessaire d'activer ce choix. Vous le voyez sur l'écran en bas à gauche. C'est ce choix-là qui va permettre à Miss TV d'aller au-delà du premier transpondeur et de regarder les chaînes de télévision présentes sur tous les autres. Et nous allons, à partir de là, relancer un deuxième scan pour trouver, si nous souhaitons faire ça, bien entendu, pour trouver la totalité des chaînes qui sont disponibles sur le satellite. Je souhaite revenir un court instant sur la page précédente, celle où nous avons regardé comment lancer le balayage initial. Vous avez remarqué certainement que parmi les différents choix qui s'offrent à nous, il y en a un qui nous dit quels sont les canaux de télévision que vous souhaitez regarder, mémoriser. Est-ce que vous voulez mémoriser tous les canaux de télévision? Est-ce que vous voulez ne mémoriser que les canaux de télévision qui transportent un flux en clair et non pas les canaux de télévision qui sont protégés par un système d'accès conditionnel et par conséquent exigent un abonnement et une carte à puce et un conditional access module, etc. Donc ces choix-là se font ici en demandant simplement à avoir les canaux de télévision qui sont en accès libre. Oh, la question de la réception de la télévision à accès conditionnel, dans des conditions évidemment légales, est une question passionnante. Dès qu'on veut s'affranchir des équipements fournis d'origine par les fournisseurs de services, par les bouquets satellites, elle fera peut-être l'occasion d'une autre conférence. Pour le moment, donc, contentons-nous de réussir à mémoriser, à balayer, à mémoriser les canaux pour les chaînes de télévision en accès libre, et donc en clair. Reprenons avec plaisir, mais on va te donner un micro, si je veux te demander un micro. Donc notre ami Stéphane dans la salle prend la parole.
Juste une petite question, le balayage initial, le transpondeur initial, en fait là il va demander au satellite la liste des autres transpondeurs. Parce que j'ai du mal à comprendre comment il arrive à trouver les autres transpondeurs.
Oui, il y a un mécanisme qui s'appelle le NIT, Network Information Table, dans lequel ce sont donc des informations qui sont transmises dans le multiplex numérique, en même temps que les canaux son, vidéo, etc. Ça fait partie de la norme DVB. Ça marche plus ou moins bien. Théoriquement, grâce à cette table d'information des différents réseaux diffusés par le satellite, on devrait effectivement pouvoir trouver sur un satellite donné la totalité des fréquences de la totalité des transpondeurs et portant sur la totalité des canaux. Il y a des avis divergents, notamment sur le balayage des canaux diffusés par Hotbird. Si l'on en croit des postes assez anciens, cette table, ces informations seraient mal configurées en ce qui concerne Hotbird et ne donneraient les informations que portant sur le seul transpondeur qu'on est en train de balayer. Et donc Miss TV, si je comprends bien, utiliserait un mécanisme alternatif et non pas ces informations diffusées sur antenne pour balayer les autres transpondeurs. Mais il est toujours dangereux de donner un micro à un geek parce qu'il vous pose la bonne question, la question que vous voulez poser vous-même et que vous n'avez pas eu le temps dans la préparation de la conférence de pousser jusqu'au bout et pour laquelle donc vous n'avez pas une réponse tranchée. Ce que je comprends, ce qui ne veut pas dire forcément que c'est la vérité, ce que je comprends c'est que Miss TV n'utilise pas cette table d'information des différents réseaux et réalise le scan tout simplement en positionnant la carte d'acquisition sur d'autres fréquences. Je ne suis pas complètement satisfait de cette réponse, on creusera la question, mais c'est la meilleure que je puisse donner au moment de cette conférence, et si nos amis sur le chat ont une meilleure réponse et peuvent en même temps fouiller, googler et nous apporter la réponse en direct live, nous vous la donnerons tout de suite. Stéphane, ça ira ? Merci beaucoup, merci. Il existe enfin une dernière façon de scanner, puisque maintenant nous sommes heureux, nous avons trouvé nos 474 chaînes, dont évidemment, comme à l'accoutumée, la plupart d'entre elles ne nous intéressent pas franchement. Donc une autre façon de scanner, de balayer les fréquences, qui est ce que nous appelons ici la méthode alternative, et qui est la façon dont nous avons fait le balayage lorsque tout le reste échouait. Il s'agit d'utiliser un logiciel de balayage des fréquences que l'on manipule par la commande en ligne. Alors là, donc, on abandonnerait l'interface graphique. Et qui va lui-même générer une table des fréquences, chaîne de télévision par chaîne de télévision, une table des fréquences dans un fichier que l'on appelle traditionnellement un channels.conf, un channels.conf. Et si on est capable de réaliser cette étape de la plus haute geekerie, on aura donc un fichier channels.conf qu'on pourra importer dans Miss TV. On utilise cette méthode lorsque l'on ne réussit pas à réaliser le balayage des canaux par les instruments qui ont été jusqu'à présent présentés. Il est évident que nous citons cette méthode plus pour des raisons historiques, parce que nous espérons que, grâce à nos indications, tous vous serez capables de réaliser la mémorisation des canaux. Mais elle a connu son heure de gloire, et bien souvent sur les forums, vous verrez des gens qui continuent à proposer, à recommander de l'utiliser. C'est la raison pour laquelle nous en disons deux mots ici. Donc vous avez bien vu que dans l'écran que je viens d'indiquer, au lieu de chercher balayage ajusté entre parenthèses complet, au lieu de chercher balayage d'un seul transpondeur, on cherche maintenant importer un channels.conf. Et évidemment la question l'audience curieuse que vous êtes aujourd'hui se pose immédiatement, mais comment fabrique-t-on un channels.conf ? Et quel est donc ce mystérieux outil utilitaire que l'on doit utiliser ? Alors, l'utilitaire en question, j'avance de deux slides, c'est un utilitaire qui fait partie de la suite logicielle DVB App S, ou bien encore DVB Utils, ça dépend des distributions. Les mêmes outils ont malheureusement deux noms différents selon que vous êtes sur Debian ou selon que vous utilisez le reste du monde. Et à l'intérieur de cette suite de logiciels, on utilise le logiciel Scan, tout simplement. Sans rentrer trop dans la complexité des détails, parce que tous ces paramètres optionnels ne sont pas forcément utiles à donner, mais le slide ici, le transparent, les signale. Scan va avoir pour principale fonction tout simplement de faire exactement la même chose que ce que l'interface graphique aurait dû faire et de créer ce logiciel, ce fichier de configuration des différentes fréquences, ce fichier channels.conf, pour autant qu'on lui dise quelle est là encore la fréquence du transpondeur initial qu'il faut aller vérifier. Scan, dans mon expérience, ne va pas fournir beaucoup plus d'informations que ne l'aurait fait l'interface graphique. C'est-à-dire qu'il va scanner le transpondeur qu'on lui indique. Et si vous voulez scanner un autre transpondeur, il faut connaître sa fréquence aussi. Donc peut-être lancer scan plusieurs fois pour recevoir la liste des chaînes de télévision présentes sur les différents transpondeurs. Et là encore, très naturellement, connaître la fréquence, la polarisation, le baud rate, le nombre de symboles secondes du transpondeur, on trouve ces informations soit dans le fichier Hotbird, dans le cas qui nous intéresse, dans le cas de cet exemple, dans l'arborescence /usr/share/dvb-utils/scan/dvb-s, beaucoup plus facile à lire à l'écran que à dire, soit on reprend les informations qui sont diffusées sur le site internet dont on parlait tout à l'heure. Et une méthode alternative, un autre logiciel, alors là, qui va faire certainement des heureux, c'est l'utilitaire w_scan, qui fait la même chose, mais il n'y a pas besoin de lui indiquer la fréquence initiale du transpondeur. Il commande la carte de réception DVB de façon à ce qu'elle cherche toute seule toutes les fréquences, tous les transpondeurs. Donc il peut être intéressant à utiliser. Un mot enfin pour clore ce chapitre de la configuration des chaînes de télévision sur DVB-S, c'est la structure d'un fichier ChannelsConf. Le ChannelsConf, hélas, a connu un certain nombre de versions et des spécifications ont probablement documenté dans l'esprit de ceux qui ont développé les logiciels, mais guère documenté ailleurs. En l'occurrence, il existe un format de fichier ChannelsConf pour certains logiciels et un format de fichier ChannelsConf pour d'autres logiciels. Et si l'on demande à un utilitaire tel que Scan de créer un ChannelsConf en ne spécifiant pas le bon format, les informations seront présentes dans le fichier, mais ne seront pas réutilisables et importables dans MistTV. Donc insistons sur ce point, c'est la raison pour laquelle il est souligné sur le transparent, le fichier ChannelsConf à configurer doit l'être dans le format prévu pour le programme ZAP, qui est un petit programme qui appartient à la même suite logicielle des DVB Utils et qui permet, une fois qu'on a les fréquences, de passer d'une chaîne à l'autre, toujours en ligne de commande. Un petit programme qu'on n'utilisera pas ici, mais qui exige d'avoir la liste des fréquences, la liste des chaînes et leurs fréquences, etc., et leurs différents paramètres techniques, à ce format-là. Alors, rapidement, quel est ce format ? Le premier segment donne, comme vous le voyez à l'écran, ici avec un exemple sur la chaîne de télévision TV8 Mont-Blanc, un premier segment qui donne le nom du canal, le nom de la chaîne, un deuxième segment qui donne la fréquence. On a dit tout à l'heure qu'il était nécessaire de rentrer la fréquence pour MistTV en kHz. Ici, voyez-vous, le standard et le format de ce fichier, la fréquence est donnée en mégahertz, donc une conversion. La polarisation est le troisième segment que l'on trouve, qui décrit donc les paramètres techniques de la chaîne que l'on va regarder, polarisation horizontale, verticale. Le quatrième paramètre que les développeurs de ce format ZAP ont choisi d'inclure, c'est la chaîne en question est-elle chiffrée ou ne l'est-elle pas. Donc, dans notre application pour cet après-midi, évidemment, le paramètre sera toujours à zéro, c'est-à-dire que la chaîne systématiquement est diffusée en clair, puisque nous n'avons pas les moyens pour le moment de la déchiffrer. Le cinquième paramètre, c'est donc le symbole rate, exprimé en baud, en kilobaud d'ailleurs, en kilobaud. Et le sixième, le septième et le huitième sont des paramètres quelque peu ésotériques pour ceux qui découvrent le ChannelsConf pour la première fois. C'est tout simplement les immatriculations, respectivement du flux vidéo, donc l'image de la chaîne, du flux audio, c'est-à-dire le son stéréo, par exemple, ou qui peut être, selon la norme de diffusion, le codec utilisé, un son également avec plus de canaux. Et enfin, le service ID. Notons au passage que le flux audio peut être, il peut y en avoir plusieurs. On peut très bien avoir, comme sur Euronews, une chaîne qui diffuse en français, en anglais, en allemand, etc. Et donc, à chaque fois, le flux correspondant aura un numéro d'immatriculation légèrement différent. On a quasiment fini notre tour d'horizon du balayage des fréquences d'un transpondeur satellite et de la façon dont on peut trouver les fréquences de tous les transpondeurs satellites. Et donc, c'est avec une certaine satisfaction que l'on va être capable, pour la première fois depuis qu'on a installé notre Miss TV, de nous retrouver enfin avec une chaîne de télévision. Ici à l'écran, l'exemple est pris avec, par hasard, la chaîne France 24. Des informations, une sympathique speakerine. Notre chaîne de télévision, pour la première fois et avec après quelques efforts, s'affiche à l'écran. Il y a un dernier détail à vous livrer avant de passer le relais et de présenter le scan de canaux DVB-T. Il y a un dernier détail, c'est concernant la suppression des canaux inutiles. On a dit évidemment que lorsque l'on lance le balayage de la totalité des transpondeurs, on se retrouve avec beaucoup de canaux. Il y en a trop. Et il y en a beaucoup qu'on ne va pas regarder. Et de ce point de vue-là, il y a deux écoles qui s'opposent, enfin en tout cas qui proposent un choix différent. Les premiers qui disent, mais écoutez, il y a un outil d'administration fourni par Miss TV qui permet de supprimer tout simplement les canaux inutiles. Et puis il y a une seconde école qui dit, faites attention, si vous supprimez les canaux inutiles et que vous relancez un balayage quelques mois plus tard, parce que certains canaux ont changé, parce que vous voulez voir s'il y avait des nouveautés, etc., de nouveau, tous ces canaux inutiles seront peuplés dans la base de données, il vous faudra de nouveau les supprimer à la main. C'est pour ça que nous vous proposons cette astuce, et notamment sur cet écran-là, non pas de supprimer les canaux, mais de noter comme invisibles, ils n'apparaîtront pas dans le choix des chaînes, les canaux qui sont inutiles pour vous. Et donc invisible, visible ou invisible, le choix se fait là. Désolé, fausse manipulation. Le choix se fait à gauche de l'écran. On est toujours, je le signale, dans Miss TV Setup, donc dans la configuration. Le choix se fait toujours à l'écran. Le choix se fait ici à l'écran, chaîne par chaîne. On peut décocher visible et donc rendre le canal inaccessible, ce qui est le but recherché. Une petite pause et on enchaîne sur DVB-T ou bien Jean-Michel, on y va directo franco. On y va directo franco. Donc merci à nos amis à distance. Je reviens au bon endroit, je te redonne la machine dans les conditions d'exploitation normales. Allons-y, et pour toi, c'est le slide suivant.
Ok, moi je vais présenter donc la partie DVB-T. Alors je vais être moins... Tout a quasiment été dit, hein, puisque on reste dans la configuration DVB. Donc les étapes sont sensiblement les mêmes. Les deux uniques différences seront au niveau du type de flux, donc DVB-T. Et de la version NIF TV utilisée, puisque pour ma partie, les captures d'écran ont été effectuées avec la version 0.23.1, la dernière version stable de NIF TV à l'heure actuelle. Donc voilà, il y aura quelques différences d'ergonomie. Mais donc je vais essayer de passer assez rapidement. Sachant aussi que la configuration DVB-T sera... demande sans doute moins de compétences techniques. Hein. Bon, il y a beaucoup de choses qui ont été dites et qu'on va retrouver dans la configuration DVB-T. Donc de la même façon...
C'est-à-dire que les bons conseils qu'on donnait tout à l'heure de vérifier au moment de l'achat que la carte fait partie des cartes reconnues par les pilotes sous Linux, ce bon conseil, tu le redonnes tout à fait.
Voilà. Et voilà, donc... De la même façon, donc sur le même site linuxtv.org, on peut retrouver une URL spécifique donc pour les périphériques DVB-T, donc qui liste un peu les matériels reconnus, l'état de reconnaissance du matériel par Linux. Donc l'URL qui est reprise ici. Alors, pour le DVB-T, bon, ça c'est une recommandation toute personnelle, mais voilà, sans vouloir faire de publicité à une marque en particulier ou autre, on voit que une des cartes qui pose le moins de soucis, donc en tout cas en carte interne pour une machine
sur port PCI,
autre que portable, voilà, sur port PCI, c'est la Nova T500, donc qui a plusieurs avantages, hein. Donc comme je disais, elle est parfaitement reconnue par le maillot Linux. Elle dispose d'un double tuner, donc ça c'est un avantage non négligeable. Une carte pour deux tuners. Elle dispose également de l'amplification du signal, qui est quelque chose qu'on va s'efforcer d'activer en général systématiquement. Ça ne fait jamais de mal et ça fonctionne très bien avec. Voilà, elle a l'avantage aussi d'être peu coûteuse, donc ça fait beaucoup d'avantages pour une carte. Et pour la particularité française, en France, en carte PCI, en tout cas en rapport fonctionnalité-prix, on trouve difficilement mieux. Voilà. Donc ça, c'était une exception. Donc de la même façon, ben, on peut vérifier lors du lancement de la machine, dans les messages du noyau, que notre carte se charge bien. Donc en général, pour les cartes DVB, bon, pour ceux qui savent manipuler un peu ou faire une recherche dans le fichier journal, les fichiers journaux du système, toutes les informations des cartes DVB, en général, ont le préfixe DVB, deux points, en minuscule ou majuscule, bon, ça dépend peut-être des versions. Donc il est très facile de retrouver rapidement si notre carte fonctionne. Il y a une normalisation au niveau des cartes DVB pour tout ce qui est périphérique au niveau du noyau. Donc au niveau du système, les cartes DVB sont toutes sous DevDVB quelque chose. Donc on peut très facilement voir, tout comme pour le DVBS, que notre carte est correctement reconnue à partir du moment où on voit apparaître les fichiers ou répertoires adapteur 0, adapteur 1. Donc là, en l'occurrence, puisque les tests ont été faits avec une Nova T500, on a deux tuners. Alors donc, là je passe donc sur le...
Et c'est d'ailleurs la raison sur le slide précédent pour laquelle tu indiquais que parmi la petite procédure utile pour vérifier que la carte est bien prise en compte, on va trouver non seulement un slash dev slash dvb slash adapteur 0, mais également un slash dev slash dvb slash adapteur 1, parce qu'il y a les deux tuners.
Voilà, parce qu'il y a les deux tuners. Voilà.
J'ai une question, oui, un petit peu embêtante comme celle de Stéphane. Oui. On a une carte et on a deux tuners. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plutôt slash dev slash dvb slash adapteur 0 slash frontend 0 et à l'intérieur slash frontend 1? Ils sont sympas, les copains.
De la même façon, ça c'est. En fait, c'est dû à la. C'est dû à la l'implémentation.
Le front-end, c'est juste ce qui permet de passer de la fréquence au bit. Après, tu as le truc qui va te décortiquer les bits pour te le mettre en flux vidéo. Et ça, il le faut aussi en double, si tu veux, pour regarder deux chaînes. Donc, t'as quand même deux front-end et deux adapteurs. Si tu as deux front-end et un seul adapteur, tu pourras par exemple avoir. C'est le cas par exemple de cartes qui font à la fois TNT et satellite. Tu auras un front-end satellite, un front-end TNT et une seule partie logique. Mais tu pourras pas regarder la TNT et le satellite en même temps.
Merci Stéphane. Voilà. Donc là, ce qui veut bien dire qu'on a une belle vraie carte double tuner, puisqu'on est capable de regarder les deux flux en même temps. Et c'est la raison pour laquelle on a un adaptateur 0, un adaptateur 1, au lieu d'avoir un front-end 0, un front-end 1, qui ne nous permettrait pas d'utiliser les deux en même temps. Voilà, subtil distinguo, merci Stéphane.
Voilà. Donc j'avais mis une petite note concernant les firmwares, puisque ça fait partie des écueils en général sur lesquels on peut tomber. Il fut un temps, en tout cas, où toutes les distributions ne récupéraient pas les firmware de tous les matériels, donc c'est peut-être encore le cas. Donc,
alors pour notre ami Stéphane et pour nos nombreux auditeurs également, le firmware, c'est cette chose pas très très propre dans le monde du logiciel libre, voilà. Qui est un morceau de code écrit par le fabricant de la carte et qui a pour fonction d'utiliser un composant particulier et donc sans lequel la carte ne va pas fonctionner.
Voilà.
Et le firmware n'est pas exécuté par le PC. Que nos auditeurs comprennent bien, le firmware est chargé dans la carte et exécuté par ce composant de la carte. C'est bien pour ça qu'on parle d'un firmware et non pas d'un pilote.
Voilà, exactement. Donc, le menu MIFTV Setup, donc, qui est l'application donc, de configuration de MIFTV. Donc, c'est toujours le même menu hein, en 0.23.1, ça ne change pas pour l'instant. Donc toute cette étape, tout ce qu'on dit là donc, est valable encore pour le moment, mais comme le disait Frédéric, et ça est amené à changer dans le futur. Bon, pour l'instant on reste concentré sur ce qui existe. Donc le menu est organisé par étapes, selon les étapes de configuration. Donc on passe l'étape générale, on y reviendra brièvement sur la partie générale tout à l'heure pour une des fonctions importantes de MIFTV. Donc directement sur les cartes d'acquisition, donc on voit qu'on se retrouve avec les mêmes menus que sur les précédentes versions hein. Donc là on reste en DVB, donc la carte qu'on peut voir à droite est toujours reconnue, on est toujours dans le domaine du DVB, donc la reconnaissance se fait de la même façon. La seule différence, c'est que là, on est avec un type DVB-T. Voilà, donc, contrairement au satellite, on a des délais d'attente, en tout cas indiqués plus faibles. Bon, ça, c'est lié au DVB. Alors, un des avantages évidents du DVB, c'est que ça demande moins de connaissances techniques, enfin de mon point de vue, que le DVB-S. Donc c'est pourquoi ce sera beaucoup plus simple. C'est pour ça que je vais passer beaucoup plus rapidement sur cette partie. Alors parmi les spécificités du DVB-T.
Ouais, enfin c'est beaucoup plus simple parce que des gars comme toi qui touchent leur bille sont capables d'expliquer à tous les autres.
Oui, non, je ne sais pas, mais enfin bon. Donc parmi les spécificités donc, du DVB-T, alors spécificité, je dis ça, mais bon, je n'ai pas une grande connaissance du DVB-S non plus, donc j'espère ne pas dire de bêtises. Mais donc on a la possibilité, en tout cas dans MIFTV, d'enregistrer plusieurs chaînes. Plusieurs chaînes avec un seul tuner. Donc par défaut, dans la configuration standard, on a deux tuners de paramétrer. Donc pourquoi la possibilité d'enregistrer plusieurs chaînes avec un tuner ? Ben, tout simplement à cause du fonctionnement du DVB-T en tout cas. Où plusieurs chaînes sont multiplexées dans un flux. Et donc, lorsque notre tuner DVB-T va se synchroniser sur un multiplex, alors je n'ai plus le terme français, mais bon, sur un multiplex, on va en fait récupérer toutes les chaînes de ce multiplex. Et alors là, peut-être les gens plus techniques pourront préciser mieux que moi. Mais soit on va en fait extraire uniquement la chaîne qui nous intéresse parmi toutes ces chaînes multiplexées. Donc
il ne faut pas que nous soyons complexés à force d'être multiplexés. Il faut simplement se dire que bon sang de bois, le multiplex, c'est le vocabulaire de la TNT. Ouais. Là où les gens du satellite, ils parlent de transpondeur.
D'accord.
L'idée, c'est que on a un bit data stream qui, au lieu qu'il comporte seulement une chaîne, bah, il en comporte quelques dizaines.
Voilà. Donc dans le cas pour l'enregistrement, en tout cas, dans le cas où plusieurs chaînes qu'on veut enregistrer ou voir enfin, où visualiser se trouve dans le même multiplex, on a la possibilité donc d'enregistrer plusieurs de ces chaînes via MISTV. Donc, ce qui permet avec un double tuner d'enregistrer 4 voire plus chaînes simultanément. Alors après, le...
Jean-Michel, je parle sous ton contrôle, oui, mais qu'on comprenne bien. Donc, si l'on a un seul tuner et qu'on a plusieurs chaînes qui sont dans le même multiplex, bien qu'on ait qu'un seul tuner, on va être capable d'enregistrer plusieurs chaînes. Oui. Et le mot magique ici, c'est plusieurs chaînes simultanément.
Simultanément.
Parce que évidemment, par défaut, on enregistre toujours toutes les chaînes qu'on veut. Et puis alors, quand on a double tuner, alors là, c'est la Java.
Oui, oui.
On peut multiplier les possibilités.
Voilà, voire triple, hein, puisqu'il existe des tuners USB, donc qui fonctionnent très bien aussi. Donc voilà, pouvoir enregistrer quasiment autant de chaînes qu'on veut. En même temps, c'est possible, même avec un matériel de base comme la MIFBOX qui est ici. Voilà. Alors, une autre spécificité à bien prendre en compte, en tout cas pour la... C'est vrai pour la Nova T500, qui est la carte qui est utilisée ici, mais sans doute pour d'autres aussi, c'est le délai de tuning des VB. Puisque ce qui peut arriver, en fait, cette valeur sert lors de la, principalement lors de la recherche des chaînes. Et lorsqu'elle est trop basse, en tout cas pour les cartes Nova T, hein, lorsqu'elle est trop basse, on peut ne pas récupérer certaines chaînes, puisque voilà, le matériel n'arrive pas à se synchroniser suffisamment rapidement. Donc typiquement cette valeur, enfin il n'y a pas de valeur idéale. Moi typiquement je la place à 400 millisecondes, qui est un peu ce que font, ce qui se fait on va dire dans le milieu. Et on a des très bons résultats à 400 millisecondes. Alors après on peut diminuer cette valeur. La seule différence ce sera un temps de recherche de chaîne plus long, voilà, puisque il y a ce temps qui va être ajouté pour chaque fréquence et chaque j'y reviendrai plus tard. Bon, pour chaque fréquence, ce temps sera rajouté sur la recherche de chaîne. Donc ça va très vite, hein, ça s'additionne très vite. Mais bon, la recherche de chaîne, c'est pas quelque chose qu'on fait couramment, donc souvent, donc ça ne pose pas vraiment de soucis. Alors lorsqu'on a plusieurs tuneurs, on peut se dire plusieurs choses. Hein. Est-ce que je peux casser le logiciel en déclarant plusieurs fois le même tuneur dans MIFTV? Donc comme on peut le voir dans une des captures. Donc ça c'est pris en charge, puisque lorsque MIFTV a acquis lorsqu'on a enregistré un tuneur un frontal, bon, on l'appellera comme on veut, dans MIFTV, on ne peut plus ensuite l'enregistrer une seconde fois, puisque il détecte que ce tuneur est déjà en utilisation. Donc ça c'est juste un aparté. Donc il n'y a pas de question à se poser sur mais quel tuneur j'ai déjà intégré dans MIFTV. Lorsqu'on a plusieurs tuneurs, on voit tout de suite dans la liste déroulante quel tuneur a déjà été pris. Il suffit donc de choisir les suivants pour arriver ensuite donc à une configuration avec plusieurs tuneurs comme présenté ici. Donc on passe ensuite donc de la même façon que pour le DVB-S à la définition des sources vidéo. Donc les écrans sont c'est encore une fois sensiblement les mêmes. Donc on a la partie EIT, donc je vais pas revenir dessus, qui consiste donc à récupérer le guide des programmes via le flux de réception.
Mais toi, tu nous proposes quand même quelque chose de plus ambitieux. Hein.
Oui,
moi,
voilà.
J'étais resté au stade basique, on va récupérer ce qui tombe sur l'antenne. Toi, t'es le magicien dans l'affaire.
Ouais, non, pas vraiment, mais en fait, l'avantage, c'est que là, avec EIT, on se retrouve dans la même configuration qu'avec un matériel grand public, un magnétoscope qui n'aura pas forcément. Bon, c'est pas tout.
Bah, d'autres sources d'informations,
voilà,
quoi.
Mais qui n'aura pas forcément d'autres sources. Donc voilà, on a au moins cette possibilité, mais comme le disait Frédéric, le problème. On peut le voir sur sa télé ou autre, c'est qu'on n'a pas tout, on n'a pas toujours les informations concernant les programmes. Ces informations même peuvent changer au cours du temps. Voilà, on a rarement quelque chose de pérenne, de valable. Bon, ce serait l'idéal dans le meilleur des mondes, mais. C'est, pour Miss TV, c'est pas forcément l'idéal, puisque Miss TV donc propose des fonctionnalités de programmation automatique d'enregistrement, voilà ce genre de choses. Donc
il faut dire un mot là-dessus. Hein, je crois que c'est très important.
C'est important.
Ce que finalement on se donne beaucoup de mal. Pourquoi ? On se donne beaucoup de mal pour mettre la main sur les films, pour mettre la main sur les séries, pour mettre la main sur les documentaires. Vous savez, tous ces trucs-là qui passent à 2h du matin,
Ouais.
Eh ben, c'est pas nous qui allons le faire à la main, c'est Miss TV qui va le faire. Voilà. Et c'est là où Miss TV est super puissant. Parce que contrairement à un magnétoscope classique qui a besoin, par exemple, qu'on lui code... comment ça s'appelait déjà ces numéros-là qu'on trouvait dans... Le ShowView. Est-ce que ça a jamais marché, le ShowView? Jamais. Contrairement à un magnétoscope qui utilise le ShowView, Miss TV... C'est un vrai ordinateur. Et on va utiliser des mots-clés, comme on ferait une recherche sous Google. Et on va attraper par le coup tous les documentaires, toutes les séries, tous les films qui nous intéressent, quelles que soient les heures de diffusion, quels que soient les canaux de diffusion, quelles que soient les chaînes, parce que Miss TV est suffisamment intelligent pour faire cette recherche à notre place. Ouais. Évidemment, la condition, c'est que quelque chose lui donne connaissance des programmes. Et s'il n'y a pas les programmes qui sont connus par Miss TV, ben cette super fonction super puissante, elle ne fonctionne pas.
Exactement.
D'où, c'est un véritable enjeu de fournir à Miss TV un guide des programmes électroniques valable, ne pas se contenter de celui qui est transmis sur l'antenne avec la vidéo et l'audio, et c'est ce que tu proposes.
Voilà, exactement. Donc on a plusieurs possibilités, mais toutes faisant intervenir une connexion réseau. Alors, comme je disais, il y a plusieurs choix. Alors il y a les choix que j'ai mis en premier de récupération externe, alors complètement externalisée à Miss TV. Moi, de ce que j'en ai compris, c'est un peu la solution qui est utilisée par, par la plupart des personnes qui utilisent intensivement en tout cas Miss TV. Donc voilà, ça peut faire peur, aucun récupérateur, c'est-à-dire que en fait Miss TV ne va pas du tout gérer cette partie récupération des informations. Alors c'est quand même réservé, on va dire que c'est la dernière étape peut-être. On peut peut-être commencer par récupérer via l'EIT et puis ensuite récupérer via l'autre fonctionnalité que je vais décrire tout à l'heure. Et puis finir par zéro récupération, qu'elle ne soit plus gérée par Miss TV, mais par des programmes complètement externes, et avec les outils fournis par Miss TV, pouvoir intégrer ces informations dans la base de données donc de Miss TV. Donc ça, c'est la solution que j'utilise moi, qui nécessite peut-être de programmer des choses au niveau du système pour récupérer les informations régulièrement. Bon, donc je ne vais pas m'étendre dessus.
En synthétisant, ce que tu proposes, tu dis qu'il y a trois étapes. La plus simple, celle qui est prévue par la norme DVB, on récupère les informations quand elles veulent bien être disponibles, qui sont diffusées avec les canaux. La deuxième, c'est d'utiliser à l'intérieur de Miss TV des scripts qui vont aller chercher pour nous sur l'Internet, sur certains sites web, de l'information. Et la troisième, c'est celle des experts, excusez du peu, c'est à côté de Miss TV, on lance des applications spécifiques, dont c'est le job, dont c'est la spécialité, d'aller grappiller comme des spiders il y a 10 ans, à la moment de la bulle Internet, d'aller grappiller l'information, de la mettre dans le bon format, et de tout livrer à Miss TV prédigéré.
Voilà,
et
exactement.
C'est une autre paire de manches.
Oui, voilà. Donc c'est pour ça qu'on va pas s'étendre dessus. Donc on, ça, bon, surtout que on va utiliser des sources,
qui sont très contentes qu'on pille leur information.
Ouais, voilà. Donc
quelles sources, par exemple, site internet, programme en ligne, TDZ, le site de TDZ, très important.
Oui, je ne sais pas.
Stéphane. Ah, Télépoche, oui, en est-il. On va aller scraper le site de Télépoche, qui est un ami. On a tapé dans la main de Télépoche et ils sont tout à fait d'accord pour cette utilisation, pas du tout détournée, de leurs informations disponibles en ligne. Ce qui est dommage quand même, c'est que toute cette bonne publicité qui est disponible également sur Télépoche, on n'en profite pas.
C'est vrai.
Bah, vous avez un peu raté.
C'est bon, c'est peut-être pas du goût de tout le monde. Bon. Donc, pour passer sur cette étape aucun récupérateur, c'est aussi, elle est aussi mise en œuvre en général parce qu'on se rend compte que du fait du fonctionnement d'XML TV qu'on va voir juste après. Comme l'expliquait Frédéric, les sources ne sont pas
très coopératrice.
Voilà, coopérative avec, pour récupérer ces données, eh bien, il peut arriver que ces fonctions, que ces outils justement ne fonctionnent plus par moment. Et donc, c'est toujours embêtant de se retrouver avec pendant 6 mois quelque chose qui fonctionne bien et puis d'un seul coup ne plus avoir de programme. Ne plus avoir de programme télé, c'est d'autant plus embêtant lorsqu'on s'en rend compte, lorsqu'on n'a plus rien d'enregistré depuis quelques jours. Où là, souvent, après, c'est le branle-bas de combat pour revenir à une situation normale. Ensuite, XML TV, donc c'est la solution qui est prévue de base dans MIF TV. Et
donc, dans les trois niveaux dont tu parlais tout à l'heure, on est sur le niveau 2.
Voilà, sur le niveau 2, qui en fait serait quasiment l'idéal. En fait, en France, il nous manque un composant important qui fait qu'on doit s'appuyer sur XML TV. Mais il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a à disposition des sources, donc payantes, hein, mais pour une modique somme par an. Je ne sais plus de quel ordre c'est. Enfin, c'est pas très cher. Hein, c'est peut-être 30 dollars.
Oui, c'est quelques dizaines de dollars. Oui.
Voilà. Donc récupérer, donc via ce qu'on appelle schedule direct, récupérer les programmes, de façon tout à fait légale.
Disons simplement les programmes des programmes. On ne récupère pas les programmes eux-mêmes, on ne récupère pas la télé, on récupère le guide qui nous dit à quelle heure ça passe.
Voilà.
Et en fait, pour l'audience, ce qui est important de comprendre, c'est bien cette information, à quelle heure passent les différentes émissions, elle est très souvent disponible librement.
Exactement.
C'est-à-dire gratuitement. Sauf que les sites internet qui la diffusent souhaitent que le visiteur en profite également pour consulter la publicité qui fait vivre le site internet. Voilà. Et que lorsqu'on utilise des scripts, comme nous le faisons avec Miss TV, pour obtenir cette information disponible gratuitement, nous ne regardons pas les publicités. Voilà. Ce qui fait que les sites en question ne sont pas contents et ne collaborent pas avec nous. C'est curieux. Et lorsque nous parlons de Schedule Direct, cette initiative américaine, qui malheureusement agrège les guides des programmes, mais uniquement pour les canaux diffusés sur l'Amérique du Nord, si j'ai bien compris, c'est tout simplement que cette entreprise-là, dont c'est le métier d'agréger les programmes, les guides des programmes, cherche à se rémunérer et demande cette contribution financière de quelques dizaines de dollars américains par an, justement pour, en échange, donner login password et permettre à un script Miss TV de légitimement accéder à l'information.
Voilà. Qui est une initiative qui serait saluée si elle était disponible en France. Donc pour l'instant, elle n'est pas disponible. Je pense que la raison principale, c'est le manque de clients, on va dire. Donc XML TV, qui est l'outil intégré donc dans MIF TV pour récupérer les programmes. Donc historiquement, récupérer ces programmes sur le site de Télépoche. Donc c'est je ne sais plus si c'est toujours le cas, je ne suis pas trop tenu à la page, mais bon.
Stéphane, notre expert en second, nous a dit que oui.
Oui, non, d'accord.
Que c'était sur le site de Télépoche qu'on scrapait aujourd'hui les programmes français.
Oui, okay. Ouais, ça a évolué, mais bon, je pense que c'est toujours le cas. Alors, donc, pour ceux qui ont utilisé MIF TV auparavant, ils peuvent se rappeler que ces fonctions n'étaient pas vraiment intégrées. Donc, on faisait appel à cet outil externe. Donc, voilà, ça demandait quelques manipulations, parfois quelques surprises. Puisque moi, je me rappelle bien que typiquement, on ouvrait un X-terme qui ne s'ouvrait pas toujours en face, mais souvent en arrière-plan, donc qu'on ne voyait pas, et les utilisateurs se retrouvaient bloqués en se disant ben, « Voilà, j'ai voulu rechercher mes chaînes, je suis bloqué, je ne sais pas ce qui se passe. » Enfin bon, bref. Maintenant, en tout cas, cette étape est intégrée dans l'interface graphique de MIF TV, donc est immédiatement accessible. Alors, un des inconvénients, c'est que c'est en anglais. Mais bon, sinon ça fonctionne bien. Alors donc là c'est l'UXML TV standard, donc qui va récupérer sur Télépoche, mais il faut savoir qu'il y a des alternatives donc qui vont tout se substituer à XML TV, mais en gardant le même nom quasiment, mais qui vont aller récupérer leurs informations sur d'autres sites ou d'autres sources alternatives pour je ne sais plus, j'ai vu passer des choses pour iPod, etc. Donc voilà, il y a plusieurs possibilités, mais là on rentre dans les spécificités. Donc pour passer rapidement ensuite la connexion des entrées, donc là de la même façon que pour DVB-S, on va relier notre source de guide de programme avec notre tuner. Donc, on peut lui donner un petit nom. C'est ce qui peut être pratique dans l'interface graphique ensuite pour savoir où est-ce qu'on se trouve. Puisque dans MIF TV, il y a la possibilité de basculer entre différents tuners. Donc, quand on a du satellite, de la TNT ou autre, du câble, c'est toujours pratique de pouvoir basculer sur une source préférée. J'ai pas grand chose à dire de plus là-dessus. Donc, la recherche des chaînes donc est un peu plus simple en DVB-T, il y a un peu moins de paramètres à rentrer. Alors moi, j'ai pas les écrans francisés, bon, c'est pas grave. En tout cas, ça fonctionne beaucoup mieux qu'avant. Ça fonctionne même très bien, je dirais. Maintenant, tout ça est très très bien géré. Parce que bon, moi, j'utilise MIF TV depuis déjà 3 versions. Et donc ça fait oui quelques années. Et ça n'a pas toujours été aussi évident. Donc là, c'est vrai que ça se passe très très bien. Enfin, en tout cas, en DVB-T, il n'y a pas de souci particulier. Les chaînes sont facilement recherchées, découvertes. On a une information visuelle suffisante de l'état de la recherche, de ce qui a été trouvé réellement. Et juste pour finir, on a quelque chose qui était déjà présent auparavant, mais qui est la priorité d'entrée. Donc, je disais tout à l'heure, comme MIF TV permet d'avoir un nombre de tuners, je vais dire illimité, bon, c'est pas vraiment ça, mais bon, beaucoup de tuners.
Supérieur à un.
Oui, voilà, dans la limite du possible. On peut assigner une priorité à ces entrées. Ça peut avoir beaucoup d'avantages. Moi, je pense par exemple, il y a par exemple la possibilité de récupérer des flux Freebox pour ceux qui sont chez Free, sans vouloir faire de publicité, mais qui seront peut-être pas aussi fiables que le tuner DVB-T par exemple. Et lorsqu'on veut enregistrer ces programmes, on voudra peut-être que MIF TV choisisse de lui-même de se mettre sur un tuner plus fiable. Donc voilà, on peut utiliser la priorité d'entrée.
C'est une fonction très intéressante. Ça veut dire que parce qu'on est quand même maintenant suréquipé dans nos foyers, on a la possibilité de recevoir les mêmes chaînes,
exactement,
donc les mêmes émissions, par deux canaux différents, Tu viens de citer le cas de quelqu'un abonné à l'Internet en triple play, qui a donc la télévision par sa boîte Internet, son routeur Internet, et qui en même temps possède une carte de réception DVB-T. C'est les mêmes chaînes. Et cet écran-là permet de dire à notre logiciel, Miss TV, qu'en priorité, il faudra qu'il capture la chaîne par le canal qui est le plus fiable, c'est-à-dire la transmission hertzienne par TNT.
Donc après, ça peut dépendre des configurations, mais voilà, c'est l'idée.
Est-ce que tu as répondu à cette question angoissante en DVB-T? Est-ce qu'on a besoin de saisir la fréquence du canal du transpondeur initial ou pas?
Ah, pas du tout.
Sont-ils heureux?
Je n'ai absolument rien eu à faire à ce niveau-là. Étant donné mon peu de connaissances dans ce domaine, c'est tant mieux. Donc voilà, je peux valider qu'un béotien comme moi peut facilement, en tout cas, configurer le DVB-T. Et donc ensuite, on arrive, une fois qu'on a récupéré nos chaînes, donc on arrive sur l'éditeur de chaînes, donc qui a changé hein, quelque peu en 0.23, qui est beaucoup plus accessible qu'avant, moi je dois dire, parce que avant c'était un peu compliqué. Là, c'est assez clair. On peut également éditer ses transports. Alors, je crois pas que c'était disponible auparavant. Enfin, en tout cas, on a la possibilité d'éditer beaucoup d'informations pour les experts. Hein.
Oui, enfin, en DVB-T, on a quand même moins le problème des chaînes de satellites pour lesquelles il y a beaucoup de déchets, beaucoup de chaînes inintéressantes. A priori, en DVB-T, en TNT, bon, on peut peut-être retirer quelques chaînes musicales un peu surnuméraires, mais a priori, une fois que le scan est fait, on a moins besoin de faire le ménage.
Voilà, c'est vrai aussi. Donc voilà, on a à disposition l'édition des transports, etc. Alors, je m'étais plus besoin de channels.conf, c'est peut-être présomptueux, je laisserai juger les autres les experts, mais en tout cas, voilà, en ce qui me concerne, en tout cas pour le DVB-T, je pense qu'on peut se passer heureusement de ce genre de configuration qui n'est pas forcément évidente pour le non-connaisseur. Et donc voilà, juste pour finir, quelques mots sur une des étapes peut-être les plus longues de la configuration en fait, qui est l'association du bon programme TV aux chaînes. Parce qu'on a vu tout à l'heure qu'on a associé une source de guide de programme à un tuner. Donc on va avoir effectivement une liste de programmes pour une liste de chaînes. On va avoir au niveau de notre tuner récupéré une liste de chaînes également. Le problème, c'est que ensuite il faut faire la correspondance entre ces deux informations, c'est-à-dire associer une chaîne à un guide de programme pour une chaîne, voilà, pour la même chaîne. Et c'est pas forcément évident, puisque les chaînes n'ont pas forcément exactement le même nom entre la réception TNT et le guide de programme qu'on a récupéré. Par exemple,
là, tu parles toujours de la récupération des programmes par XML TV
Par n'importe quel récupérateur, en fait. Que ce soit qu'il soit externe, qu'il soit XML TV, qu'il soit... non, pas EIT. EIT, ça marche tout seul. Mais XML TV ou externe, effectivement, il faut souvent faire la correspondance. Alors, il existe tout un tas d'outils pour faire ces correspondances. Donc, je ne vais pas m'étaler dessus, parce que ça, c'est un autre sujet. Mais bon, pour l'audience, on peut dire que sur le site MIFTVFR, on a à disposition donc, des gens qui peuvent aider pour cette partie-là. Et également des tutoriels qui sont très bien faits. Qui propose plusieurs méthodes, plus ou moins automatiques, pour réaliser cette opération. Voilà.
Qu'en pensez-vous ? On fait une petite pause ?